Bienvenue dans le projet Spilia et cette nouvelle série de podcasts enregistrés dans le cadre d'un projet européen financé par Erasmus+. Aujourd'hui, nous écouterons le 7e atelier à visée philosophique d'une série de 14, enregistré au sein de la 6e primaire de l'école de Crolly à Bruxelles. Le thème, les cultures.
Bonjour tout le monde. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous lire une histoire qui s'appelle « On n'est pas au centre du monde ». Ici, j'aimerais bien que vous essayiez, à la fin de l'histoire, de dégager le thème de l'histoire. D'accord ? Nous sommes plus de 7 milliards à vivre sur Terre. Un nombre si grand qu'on n'arrive même pas à imaginer. Presque tous les endroits de la planète sont habités, même les déserts, même les forêts. Et l'on y parle des milliers de langues. Partout, les femmes, les hommes et les enfants vivent à leur façon, croient des choses différentes, ont leur propre histoire pour expliquer et comprendre le monde. Et se comportent différemment dans toutes les circonstances de la vie. Chez les uns, quand on se rencontre, on se serre la main ou on s'embrasse, alors que chez d'autres, il ne faut surtout pas le faire. En certains endroits, on mange assis par terre et en silence. Ailleurs, on en profite pour discuter autour de la table. Ici, les mariés portent une robe blanche. Ailleurs, c'est la couleur du deuil. Ce que les uns mangent avec régal est considéré comme dégoûtant par d'autres. C'est que nous autres, les humains, avons ce point commun. Nous sommes tous différents. Toutes et tous, partout dans le monde, nous avons tendance à croire que nos goûts, nos habitudes et nos croyances sont les meilleures, les plus logiques, les plus naturelles, et que les façons de penser et d'agir des autres sont vraiment bizarres, pas normales du tout, ou même révoltantes. Et les autres, eh bien, ils pensent exactement la même chose de nous et seraient bien surpris de nous voir faire. Notre façon de faire les choses, de voir le monde et d'en parler n'est ni unique ni la meilleure. C'est celle que nous avons apprise avec nos parents, nos familles, à l'école. C'est notre culture. Notre culture est faite de ce que nous croyons, de ce que nous savons et de ce que nous croyons savoir. Elle est faite des connaissances scientifiques et des découvertes faites par les savants, mais aussi des histoires que les humains inventent depuis la nuit des temps, pour expliquer le monde tel qu'il est et que l'on appelle des mythes. Apprendre à connaître les autres, c'est s'ouvrir aux autres cultures, aux autres accents, aux autres langues. C'est aussi ne pas forcément croire tout ce que l'on nous raconte et apprendre à réfléchir par nous-mêmes. Bref, c'est du boulot et c'est le début d'une longue et belle aventure. On m'a dit que le monde était né d'une goutte de lait. Toi, on t'a raconté qu'au début était le chaos, puis que la terre est apparue. Ils croient qu'un grand vent souffla sur les eaux et qu'ensuite notre monde s'est formé. Les savants leur ont expliqué qu'au départ, il n'y avait que du vide, et puis que la matière s'est accumulée jusqu'à former la terre. Mais toutes et tous, nous voulons savoir d'où vient la terre sur laquelle nous vivons. Les premiers humains sont sortis du sol, moi j'en suis sûre. Elle raconte qu'ils sont descendus du ciel. Toi, tu crois qu'ils ont été faits de poussière. Les savants nous expliquent qu'ils ont lentement évolué. Et vous, vous croyez qu'ils ont été faits d'argile, comme de la pâte à modeler. Mais nous, les humains, nous sommes humains, voilà tout. Je me demande d'où viennent les enfants. Elle imagine qu'ils arrivent juste comme ça, un jour ou l'autre. Ils disent qu'un esprit attend que les mères passent et hop. Vous croyez vraiment qu'il tombe du ciel? Lui, il croit qu'il naisse dans les choux. Quelle histoire! Mais ce n'est pas tout de naître. Après ça, il faut grandir. Tu me fais une bise, il se serre la main, je te fais une petite courbette, elle se frotte le nez. On se souhaite une bonne journée. « Bonjour » ou bien de vivre en paix, « Salam, Shalom. Mais quand nous rencontrons quelqu'un qu'on aime, nous le saluons et lui montrons qu'on est heureux de le voir. Il se pare de bijoux au nez, au nombril, où il veut. Tu portes des plumes, elle décore sa peau. Vous coiffez vos cheveux avec du gel et moi avec du beurre. Il ne les coupe jamais, elle se les rase. Mais partout dans le monde, nous avons notre façon de plaire à celles et ceux qui nous plaisent. Là, je vous montre l'illu quand même. Elle mange dans un bol avec des baguettes. Moi, je mange à table, assise bien droite devant mon assiette, avec un couteau et une fourchette. Il mange avec les mains assis par terre, autour d'un grand plat qu'il partage. À chacun sa façon de faire. Mais tout le monde mange, non ? Je peux manger des escargots et des grenouilles. Tu manges du serpent, des sauterelles et des scorpions. Il dévore de gros hamburgers. Elle ne mange jamais de viande. Mais tout le monde a un plat préféré. Moi, je pense que les animaux pensent. Et toi, tu penses qu'ils sont bêtes. Et elle, je l'ai entendu leur parler comme à des amis. Vous les tuez sans aucune inquiétude. Et ils les mangent de bon appétit. Nous ne tuons même pas les moustiques. Eux aussi ont le droit de vivre. Mais en fait, nous sommes aussi des animaux, non ? Je vis sous une tente ou sous le ciel. Tu vis dans la hutte et elle dans un igloo. Ils vivent dans des maisons ou des immeubles qui essayent de toucher les nuages, ou bien dans une roulotte, et pourquoi pas dans une grotte. Mais quand vient la tempête, qu'elle soit de vent, de sable, de neige ou de pluie, nous avons besoin d'un abri. Le soir, je retrouve mon lit pour la nuit, et je ne le partage qu'avec mon doudou. Vous dormez ensemble, en famille. Toi, tu dors tout seul dans un hamac, tu te balances en dormant. Elle dort par terre. Au-dessus d'elle, il n'y a qu'une couverture et les étoiles. Mais quand vient la nuit, nous fermons les yeux et nous dormons, pourvu que l'on fasse de beaux rêves. Les savants nous apprennent que la Lune est un satellite de la Terre. On te dit qu'elle est vivante, qu'elle meurt et renaît régulièrement. Ils racontent que c'est une déesse qui nous surveille et nous protège. Elle est sûre que la Lune réveille les loups-garous et qu'elle peut même nous rendre fous. Vous y voyez un personnage, eux, un lapin. Moi, j'y vois l'ombre d'un visage et je me demande bien qui c'est. Un jour, les humains ont marché dessus et n'ont rien vu de tout ça. Mais ici ou là-bas, par les nuits étoilées, elle nous fait rêver. Elle croit que quand on meurt, on va au ciel. Tu dis que quand on est mort, et puis c'est fini. Moi, je crois que quand on est mort, on renaît dans un autre corps et que cela recommence encore et encore. Lui pense que la mort, c'est le début d'une autre vie. Mais c'est pareil pour tout le monde. Notre vie a une fin. Et nous verrons bien le moment venu. Je suis sûr que le monde et les humains ont été créés par un dieu. Mais pas du tout. Il y avait en réalité un dieu et une déesse, dit-elle. Toi, tu crois qu'il y a des milliers de dieux, un pour chaque chose, chaque animal, chaque plante. Et nombreux sont ceux qui croient qu'il n'en existe aucun. En parlant de cela, souvent nous nous fâchons. Pourtant, il y a tant d'autres questions plus utiles et plus urgentes. Nous sommes souvent étonnés par les autres, rarement par nous-mêmes. Pourtant, nous vivons dans le même monde. Alors, regardons plus loin que nos nombrils. Personne n'est au centre du monde. Voilà qui peut plus ou moins dire, en un mot, deux mots, aller en une phrase. Qu'est-ce que ça évoque, cette histoire ?
Ça explique que y a plusieurs manières de faire les choses différemment, mais que tout le monde le fait à sa manière.
Voilà, donc il y a ça qui t'est venu à l'esprit, ce sont les différentes manières de faire les choses. Qui a une autre proposition ?
C'est aussi dans les différents pays que les personnes qui ont des habitudes dans un pays, pour eux, ça paraît tellement bizarre que c'est pas... Par exemple, la nourriture, des fois, c'est dégoûtant pour eux. Ils n'ont pas la même manière de penser... je sais pas comment expliquer ça.
Alors, tu dis les différentes manières de penser, mais avant ça, tu as dit autre chose, que dans les différents pays, Chacun avait quoi ? Vous avez entendu le mot qu'elle a utilisé ?
Ses religions, ses habitudes.
Des habitudes. Et dans les habitudes, tu proposes les religions. On va revenir à ça après. Hein. Voilà. Qui d'autre peut, en quelques mots, résumer ?
Ça dit aussi qu'on est tous différents, qu'on n'est pas tous pareils. Et même quand on croit que ce qu'on fait, c'est mieux, c'est pas forcément mieux.
Alors, donc, on est différents. Et tu amènes l'idée des croyances qui nous amène à dire que ce qu'on fait, c'est mieux. Mais encore ?
Mais elle explique aussi que chacun a son avis, ses goûts.
Toi, tu mets en évidence l'avis et les goûts. Plus d'autres propositions ? Alors, on va travailler sur ce que vous venez de proposer, justement. Alors, les différentes manières de faire les choses et les différentes manières de penser. Qui pourrait me donner un exemple sur une différence d'agir ou une différence de penser ?
Comme dans le livre, la personne l'a expliqué, il y en a qui mangent par terre, il y en a qui mangent à table, il y en a, ils vont à la plage tout nus, il y en a, ils vont à la plage en maillot.
Donc on va prendre par exemple le fait de, un exemple, manger. On mange tous des choses différentes et tu l'as dit, voilà, les uns par terre, les autres à table, les autres avec des couverts, les autres, etc. Quel est le rapport avec on fait les choses différemment, hein ? On mange différemment, on mange des choses différentes. Quel rapport cela a-t-il avec une façon de penser ? Est-ce qu'il y a un lien entre le fait d'agir et le fait de penser. Est-ce qu'en fait, on pense tous différemment ?
Moi, je trouve que tout le monde est différent. Enfin, il n'y a pas des gens qui peuvent penser exactement la même chose. Ce n'est pas possible. C'est tout le monde a sa manière d'expliquer les choses et de penser.
Tu peux donner un exemple ?
Par exemple, moi, je voulais dire ça. Et Tamara, je suis sûre qu'elle ne va pas dire ça. Elle va dire autre chose. Elle pense autre chose, ou Milo, ou Léa.
Est-ce que tu sais exactement comment tes voisines pensent ?
Non.
Mais alors, comment tu fais alors ?
Tamara, dis ce que tu voulais dire.
Je voulais dire que c'est chacun son opinion, chacun ses intérêts.
Et l'opinion et l'intérêt, c'est une façon d'agir ou c'est une façon de penser ?
C'est plutôt une façon de penser. Enfin, et quand je pense, du coup, tu agis en faisant...
Ah, ça c'est intéressant. Donc en fait, quand on pense, c'est plus avoir par exemple des opinions. Mais ce sont ces opinions qui vont faire qu'on fait les choses d'une façon ou d'une autre, c'est ça ? Est-ce que j'ai bien résumé ?
Oui, c'est parce que par exemple, moi j'avais envie de jouer à cette récré avec Niki, donc c'est ce que j'ai envie de faire. Et du coup, je l'ai fait. C'est donc dans ma tête, je me suis dit que je voulais faire ça. Et donc, j'ai fait ça. Mathéo, il n'avait pas forcément envie de faire ça, par exemple.
On va donner la parole à quelqu'un d'autre. Là, il y a deux enfants qui sont au taquet.
Même si parfois, on pense la même chose. Genre, Mathéo, il pense à jouer au foot. Et moi, je pense à jouer au foot. On ne pense pas de la même manière. On pense la même chose, mais pas de la même manière.
Et comment est-ce qu'on peut alors...
Lui, il peut s'imaginer être gardien. Et moi, je peux m'imaginer mettre un but.
Alors, j'adore ce que vous dites là. Je trouve que c'est super intéressant. Mais est-ce que ce que vous pensez, c'est uniquement ce qui vient de vous ?
Par exemple, parfois, on ne va pas tous penser la même chose, mais parfois, on voit quelque chose qui a une forme, par exemple, inattendue. Mais on ne va pas penser la même chose, mais on va penser des choses qui vont se compléter les unes et les autres.
D'office, ce que tu penses va compléter ce que
pense... Non, pas d'office, mais parfois, ça peut arriver.
Parfois. Ok. C'est intéressant, ça.
Moi, parfois, avec mon petit frère, on se connaît tellement bien que parfois, on fait « Tu penses à ce que je pense ?» et il fait « Ouais !»
Alors, si tu étais à côté d'un Japonais, est-ce que tu pourrais avoir ce genre de relation où il n'est même pas nécessaire de dire ce qu'on pense parce qu'on pense la même chose ?
Ça dépend si c'est quelqu'un que je connais vraiment ou si c'est quelqu'un qui est inconnu.
Ah, donc il y a déjà là un élément, il y a les proches et puis il y a les inconnus. Qu'est-ce qui fait qu'avec les proches, on va peut-être pouvoir penser la même chose, avoir les mêmes opinions, faire les mêmes choses, et qu'avec des inconnus
Peut-être parce que, comme par exemple son frère, il le connaît depuis qu'ils sont nés, ils se connaissent super bien, ils sont frères, ils ont des liens parentés et tout. Et du coup, ils ont un peu les mêmes habitudes, les mêmes religions, on va dire. Enfin, et peut-être l'inconnu, lui, il aura d'autres religions, mais il pourrait penser aussi la même chose que toi.
Ok. C'est quoi les habitudes? Ça nous vient d'où, ça?
C'est aussi avec les parents, les personnes. Moi, j'ai toujours été avec... j'habite depuis que je suis née avec mes parents. Et donc, c'est avec mes parents que je vais partager des choses. Je vais partager, ma vie avec eux. Et du coup, ça va aller de... Par exemple, ma maman, avant, elle avait du coup aussi une maman. Et c'est ça, Et elles se sont partagées de leur vie et tout. Et du coup, elle a quand même pris un petit peu un peu les mêmes opinions, les mêmes avis que sa mère avant. Et donc, moi, c'est la même chose. Et c'est comme ça depuis des centaines d'années, quoi. À chaque fois, ça va, dans quoi on a vécu, ça va nous... Du coup, on va être habitué à avoir cette pensée-là, quoi.
Est-ce que ce serait possible qu'en grandissant, tout d'un coup, tu rencontres un Indien d'Amazonie et tu tombes folle amoureuse de cet Indien d'Amazonie? Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas rester avec toutes tes croyances et avec tout ce que tu penses, ou est-ce que tu risques de changer?
Mais du coup, on va partager nos religions. Par exemple, lui, s'il met des plumes sur sa tête, peut-être qu'à un moment, je vais mettre des plumes sur ma tête, moi aussi. Enfin, parce que du coup, il a vécu tout le temps comme ça. Je ne vais pas rester enfermée dans quoi j'ai vécu. Je vais aussi m'ouvrir à ce qu'il a eu lui-même. Je vais changer,
Et si lui, il met des plumes sur sa tête, etc., et que toi, au départ, t'en mets pas, et qu'après ça, tu vas changer, que tu vas peut-être en mettre, c'est quoi que tu vas prendre de lui? Une habitude uniquement?
C'est... je sais pas.
On va donner la parole à nos deux amis. Ah, là, derrière toi, peut-être.
Mais je vais juste dire quelque chose par rapport à ce qu'a dit Tamara. Mais par exemple, moi, ma mère, elle a presque jamais les mêmes opinions que ma grand-mère. Donc, parfois, ça arrive qu'on prenne les mêmes opinions que ses parents ou d'autres personnes. Mais pas toujours, par exemple. Mes grands-parents, ils ont jamais les mêmes opinions. Mon père, ma mère non plus, tout ça. Donc, je suis pas vraiment très d'accord.
En tout cas, ce n'est pas la famille habitude, là.
Mais je reviens sur le truc que Célima a dit et que tu as posé comme question. Mais en fait, ça dépend parce que si toi, dès que t'es né, genre t'as 50 ans, et dès que t'es né, on te dit que les dinosaures n'ont pas existé et que d'un coup, on te dit qu'ils ont existé, tu vas pas spécialement tout de suite y croire.
Est-ce qu'il y a d'autres exemples comme ça? De choses qu'on vous a racontées, puis que tout d'un coup, il semblerait que ce ne soit pas le cas. Ou que vous ayez... Il y a quelque chose, un nouvel élément qui arrive et qui fait que vous changez d'avis.
C'est comme mes parents, avant, nos parents presque tous, avant, ils écrivaient goûter avec un accent circonflexe. Et maintenant... C'est la nouvelle orthographe, donc ça fait bizarre pour eux que d'un coup ça change.
Effectivement, voilà un changement. Mais ce changement est dû à quoi?
À des découvertes.
Donc, vous avez déjà évoqué le fait qu'il y a des expériences qui nous amènent à... Et puis, il y a aussi des découvertes.
Mais aussi, parfois, par exemple, pour les dinosaures, parfois c'est aussi par rapport aux religions. Parce que parfois... T'as une religion qui vient de ton pays et donc tu penses pas la même chose.
Est-ce que ce sont les religions qui nous amènent à penser d'une certaine façon?
Pas tout le temps, mais parfois.
Qui peut donner un exemple par rapport à sa religion? Est-ce que quelqu'un ici a une religion où cette religion amène à penser d'une certaine façon ou à agir d'une certaine façon?
Moi, ma maman, elle est musulmane, mais moi, je suis pas musulmane.
Ah, déjà, ta maman est musulmane et toi, tu ne l'es pas. C'est toi qui as décidé de ne pas l'être?
C'est juste que je ne sais pas, en fait.
Moi non plus, je ne sais pas. C'est parce que très souvent, on prend la religion, en tout cas à ton âge, de ses parents.
Moi, oui, j'ai une religion, donc je suis musulmane. Et du coup, je mange pas de porc et je crois en Dieu. Et voilà.
Est-ce que c'est une façon de penser ou est-ce que c'est autre chose quand on ne mange pas de porc par rapport à sa religion? Comment appelle-t-on ça?
Une sorte de régime alimentaire, non?
Oui, mais ça s'appelle comment quand on doit faire des choses, on ne peut pas faire d'autres?
Mais une règle, non?
Mais voilà, bêtement, hein, c'est une règle. Et donc, il y a des règles de vie qui dépendent de la religion. Est-ce qu'il y a d'autres religions où on ne peut pas manger de porc?
La végétarienne.
Ah, c'est une religion, ça, maintenant. Effectivement, on peut dire que ça devient une religion. Alors, une autre religion, une vraie religion.
Mais mes arrière-grands-parents et tout, ils étaient juifs et ils avaient beaucoup d'attitudes comme ça. Enfin, par exemple, le vendredi, ils mangeaient une challah. Ouais, un pain enfin en épi comme ça, où on coupait on arrachait un bout du pain qu'on mangeait comme ça. Ou alors je sais pas si c'est le dimanche ou le samedi quoi, mais il y a un jour on ne fait rien, genre
Shabbat.
Shabbat, on peut rien faire. Alors on chante une chanson Shabbat Shalom et on dit un nom par exemple. Enfin.
Mais oui, voilà. La religion juive, elle a aussi ses règles. Et notamment, en principe, on ne mange pas de porc. Ceci dit, chacun prend des libertés par rapport à certaines religions. Ah, une question.
Shabbat, j'ai pas compris. Ils mangent ? Enfin, quand tu as dit, ils font rien.
Non, alors, c'est pas tout à fait juste. Ils font. Hein ? Ils s'arrêtent pas de vivre. Mais Shabbat, c'est un moment où, chez les Juifs, par exemple, on n'allume pas l'électricité, on ne fait pas. Il y a un tas de choses qu'on ne peut pas faire. On prie, normalement, on se réunit, on mange ensemble, mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire à Shabbat.
Mais je ne sais pas si c'est une religion ou c'est interdit, mais je connais quelqu'un, il est chrétien et il ne mange pas de porc.
Maintenant, parfois, alors si, par exemple, moi je ne mange pas de porc et que je ne suis ni juive ni musulmane, c'est peut-être, voilà, tout simplement un choix parce que peut-être que je n'aime pas le porc. Ceci dit, là, les végétariens, il y a quand même des religions où ils sont végétariens.
Parfois, quand t'es chrétien, tu peux être chrétien et en même temps végétarien.
Oui, mais ce n'est pas la religion qui t'oblige à...
Non, c'est pas la religion, mais tu peux avoir les deux en même temps.
Oui, mais végétarien, ce n'est pas une religion, chouchou. Quel est le propre d'une religion?
Dans certaines religions, c'est la façon de penser qui est importante. On ne peut pas penser une certaine chose. On doit penser comme... dans certains pays, on doit penser comme tout le monde. Et il y a des religions où on peut pas tout faire. On doit faire certaines choses. Et aussi, c'est une façon parfois de penser.
Oui, mais tu n'as pas répondu à la question que j'ai posée. La question que j'ai posée, c'est quoi le propre d'une religion? Parce que tu vois, là, avec les végétariens, ils amènent ça toujours comme une religion. Qui pourrait dire le propre d'une véritable religion? Reconnue, on va dire.
Une religion, c'est en ce qu'on croit. Du coup, parfois, c'est Dieu à cause d'une religion. Quand on croit à Dieu, on va dire que c'est Dieu parce que, voilà, c'est à cause de Dieu, on va dire qu'ils ne mangent pas de porc parce que c'est ça leur religion. Ou...
Petit bémol. C'est pas Dieu qui s'est amené en disant, tu comprends, hein? On se réfère à quoi quand les musulmans, ils se réfèrent à quoi pour savoir ce qu'ils doivent faire ou pas?
Ils vont prier.
Oui, mais qu'est-ce qu'il y a aussi qui est...
Dans une église, par exemple, il y a quelqu'un qui...
Qui dit?
Qui dit, oui, les règles et tout ça.
Et il invente ou bien il dit par rapport à quoi?
Par rapport à un livre.
Comment s'appelle le livre des musulmans?
La Bible.
Non. Mais c'est pas grave, on se rapproche.
Le Coran?
Mais oui. Et le livre des chrétiens?
La Bible.
Voilà, on résume. Hein? Différentes manières de faire les choses ou de penser. Penser et faire les choses ont un lien. C'est parce qu'on pense certaines choses qu'on fait certaines choses. On a donné... Comme exemple, manger, pour penser, on a des opinions. D'où viennent ces opinions? Ces opinions nous viennent de l'expérience, des découvertes, de l'éducation. Ça vient aussi des habitudes, ça vient des règles qui sont imposées par des religions. Donc, effectivement, chacun, nous croyons tous des choses différentes et chacun peut avoir son avis ou ses goûts. Moi, j'aimerais bien quand même que vous puissiez me dire comment ça s'appelle quand on a des habitudes, qu'on fait certaines choses, pas d'autres, que dans un pays, on fait certaines choses que dans un autre, qu'on ne fait pas dans un autre pays, qu'on fait certaines choses dans certaines familles et pas dans d'autres. Ça s'appelle comment, ça ? Tu vois, par exemple, nous, on va aller au musée, on va aller voir Bruegel, on va aller voir Picasso. Ça s'appelle comment, ça ? Tout ce qui, en fait, est une façon d'exprimer.
C'est une habitude ?
C'est une croyance ?
Nous, on mange à table avec des couverts. En Chine, ils mangent avec des baguettes. Ce sont des différences, mais de quoi ?
Ben, c'est un choix.
Est-ce que tu crois que les Chinois, ils choisissent ? Alors, c'est quoi ?
C'est une façon de faire, c'est...
Eh ben, ça s'appelle comment ?
Oui.
C'est la culture ?
Des lois ?
Et qui pourrait me dire ce que c'est que la culture ?
Moi, j'ai cru la culture dans les champs.
Magnifique ! Oui, oui, tout à fait, la culture dans les champs, qu'est-ce qu'on fait ?
Mais on cultive les champs de maïs.
Et pour cultiver, qu'est-ce qu'on fait ?
Ben, on travaille.
Oui, mais bon, moi, si j'ai un potager, je travaille. Je fais quoi exactement pour...
Tu plantes.
Ah, et je plante quoi ?
Des graines.
Donc, on plante des graines. Et qu'est-ce qu'on fait avec ces graines ?
On les arrose.
Eh bien, c'est magnifique. Quel est le rapport entre mon potager où j'ai planté des graines que je dois arroser, sauf ici en Belgique où il y a assez d'eau, hein, et la culture, Picasso, la musique, les langues, les habitudes alimentaires, les religions.
Mais ils ne se cultivent pas ou ne se plantent pas de la même manière, ils sont tous différents.
Et qu'est-ce qu'on plante ?
Mais par exemple du maïs, on ne la plante pas ou on ne la cultive pas de la même manière que du blé.
Magnifique. Eh bien, effectivement, ça, c'est la culture. Je vous lis rapidement l'histoire suivante, qui est très courte. Mais vous allez également ici me dire ce qui s'est passé. C'est l'histoire d'un grand pays qui était gouverné par un général. Les habitants pensaient que leur façon de vivre était la meilleure. Ils avaient une armée très puissante et ils avaient le canon. De temps à autre, le général lançait son armée à la conquête d'un pays voisin. « C'est pour leur bien, disait-il, pour qu'ils soient comme nous. » Les autres pays résistaient pied à pied, mais ils finissaient toujours par être envahis. C'est ainsi que le général se retrouva à la tête de tous les pays, tous sauf un. C'était un pays si petit que le général n'avait jamais pris la peine de l'envahir. Mais maintenant, il ne restait que lui. Alors un jour, le général lança son armée à sa conquête. Le petit pays surprit le général. Il ne possédait pas d'armée, il n'opposa aucune résistance, et le peuple accueillit les soldats comme s'ils avaient plaisir à les recevoir. Le général s'installa dans la plus confortable des maisons, tandis que les soldats prenaient logis chez l'habitant. Chaque matin, le général passait ses troupes en revue, puis il écrivait à sa femme et à son fils. Les soldats liaient connaissance avec les gens du pays. Ils jouaient à leurs jeux, écoutaient leurs histoires, apprenaient leurs chants et riaient de leurs bons mots. La nourriture était différente. Les soldats aimaient bien assister à la préparation des repas avant de passer à table. Tout était délicieux. Comme ils n'avaient rien d'autre à faire, les soldats aidaient les gens dans leurs travaux. Quand le général se rendit compte de ce qui se passait, il entra dans une colère noire. Il renvoya les soldats dans leur pays et en fit venir de nouveaux. Mais les nouveaux soldats se comportèrent exactement comme les précédents. Le général en conclut qu'il n'était pas nécessaire de maintenir autant de soldats sur place. Il réduisit à quelques hommes son armée d'occupation et rentra dans son grand pays. Une fois le général parti, les soldats accrochèrent leurs uniformes au porte-manteau. et ils participèrent à la vie de tous les jours. Le général eut un retour triomphal avec ses soldats qui scandaient le traditionnel « Nous sommes les conquérants, nous sommes les conquérants ». Il était content de retrouver les siens. Pourtant, quelque chose avait changé. La cuisine sentait comme celle du petit pays. Les gens jouaient aux jeux du petit pays. Et quelques-uns portaient même des vêtements du petit pays. « Ah ah ! Butin de guerre !» se dit le général en souriant. Ce soir-là, quand il coucha son fils, l'enfant lui demanda de lui chanter quelque chose. Alors il chanta les seules chansons qu'il avait en mémoire, les chansons du petit pays, le petit pays qu'il avait conquis. Alors
ben, ça fait un peu référence à l'autre livre. C'est que ben, quand ils vont dans l'autre pays, ben, ils commencent à apprécier...
Ben, les gens du petit pays, ils ont accueilli les soldats, et ils ont partagé leur culture. Et donc, en fait, après, ils ont transmis leur culture un peu. Donc, en fait, moi, ce que je comprends, c'est qu'en fait, même s'ils sont de pays différents, même s'ils ont une culture différente, ils peuvent devenir amis et ils peuvent partager leur culture, leur religion, tout ça. Alors que même si à la base, ils voulaient les envahir.
Quelqu'un veut ajouter quelque chose ?
Mais ça veut aussi dire, même si t'es le plus grand et le plus fort, ben, y a aussi le plus petit qui est aussi, enfin, pas fort, mais que tu gagnes pas toujours, même si t'es très fort ou quelque chose comme ça.
On reviendra avec cette idée de force. C'est très, très intéressant ce que tu dis.
Ce que je disais, c'est que les gens du petit pays, ils ont accueilli les soldats, mais en accueillant les soldats, ils ont transmis leur culture et tout ça. Et du coup, les soldats, et dans le très grand pays que le général avait conquis, maintenant, c'est comme si c'était la culture du petit pays.
Et on va terminer par toi.
Il ne faut pas avoir de la force si tu n'es pas intelligent.
Alors, on reviendra avec cette idée de force et d'intelligence. Tu veux
préfère
bien...
être petit, mais intelligent, qu'être fort, mais totalement débile.
Mais justement, il faut pouvoir définir ce que c'est que la force. Et donc, on y reviendra. Les gars, je vais vous demander aussi, chez vous, à la maison, de regarder tout ce qui vient d'une autre culture. Pensez chez vous à tout ce qui vient d'autres cultures, qui viennent d'autres horizons et que vous avez adoptés.